Il y a le dialogue qui démontre comme en philosophie, celui qui raconte et confronte comme au théâtre, et puis il y a le dialogue amoureux, singulier, atypique, incertain, un dialogue qui inquiète et rassure, oppose et rapproche, un dialogue pour exposer qui l'on est et trouver ce qu'il y a dans l'autre. Le dialogue, c'est le titre d'un très très beau texte signé Simon Johannin, un texte qui paraît aux éditions Alia et qui tisse en quelques pages, avec puissance et simplicité, les contours d'un dialogue amoureux, moderne et sans âge, où se confrontent l'amour et la mort, une femme et un homme, la passion et le désir, les symboles et le réel. Bonjour Simon Johannin.
Bonjour.
Le dialogue, où est-ce que ça se situe? Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter le grand décor que vous avez planté et qui est un peu étrange pour celui qui le parcourt?
Oui, alors pour moi c'est d'abord l'espace de la parole, parce que ce texte n'est composé, n'est tissé que de la parole de ces deux personnages. Et c'est à travers ce qu'ils se disent d'eux-mêmes et de l'autre que l'espace se dessine. Donc on comprend qu'ils sont dans une chambre, mais c'est une chambre au contour flou, mouvant, puisqu'elle est composée de plusieurs réalités, donc qui sont à la fois, on pourrait dire, dans notre réalité tangible, et en même temps, par les secrets qu'ils se livrent, ils ouvrent des portes vers le monde invisible.
Ouais, c'est une chambre qui n'a rien de physique. Au fond, quand on vous lit, on se demande même parfois si les deux personnages, un homme, une femme, dont on ne connaît pas grand-chose, si cette chambre se situe au paradis, dans les limbes, dans un outre-monde. Est-ce que vous le savez vous-même, au fond?
Je pense que je le sais un petit peu, oui. Pour moi, elle est dans tous ces endroits à la fois. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de leur conversation et des espaces qu'ils traversent, l'environnement qui les entoure mute au contact de ces choses, au contact de ces forces, et c'est comme ça qu'eux-mêmes se retrouvent à s'accrocher à une réalité qui est de moins en moins celle que l'on partage vous et moi en ce moment.
Pourquoi vous avez choisi, Simon Johannin, la forme au fond du dialogue, hein? On le disait en introduction, il y a le dialogue philosophique qui permet de montrer, de démontrer. Là, rien de tout ça. Il y a le dialogue au théâtre qui permet de tisser une intrigue, d'avancer dans une histoire. Là, au fond, l'intrigue est presque inexistante dans le dialogue. Alors, pourquoi le dialogue?
Parce que c'était nécessaire. Je pense que pour chacun de mes livres, les enjeux de forme viennent d'une nécessité. J'ai pas un rapport très intellectuel à l'écriture. C'est de l'ordre d'une sensibilité, d'une puissance qui, à un moment donné, me traverse. Et moi, je tente de me mettre au service de cette puissance qui m'appartient, dans un premier temps pour tenter de la traduire et de l'offrir à d'autres. Et donc, je pense que le dialogue, il est né simplement comme ça, parce qu'il s'est présenté comme ça et que j'ai pu avoir les oreilles suffisamment ouvertes pour l'entendre.
Qu'est-ce qui rassemble ces deux personnages, cet homme et ce femme au fond, et cette femme au fond? Est-ce que c'est uniquement un lien, le lien amoureux, ou est-ce qu'il y a un peu plus? Qu'est-ce qui les amène à se retrouver dans cette même chambre imaginaire, Simon Johannin?
Je pense que comment ils ont été placés, l'endroit où ils sont, ils n'ont pas choisi de s'entrechoquer et de se mettre en contact. Ils ont été placés à cet endroit et ils essaient de comprendre pourquoi. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est leur capacité à exposer leurs failles et à entendre les failles de l'autre. La vraie raison de leur rencontre, en tout cas le nœud de leur rencontre, au-delà du désir, du sentiment amoureux qui les habite, qui les transcende et qui parfois les dévore, c'est vraiment ça, cette capacité qu'ils ont et qu'ils créent tous les deux à, dans l'intimité, se dire.
On expose ces failles dans le dialogue amoureux. Il y a l'un de vos personnages qui scande ces trois phrases. On se laisse être amoureux, on se désarme, on se rend vulnérable. C'est ça le triptyque au fond du dialogue amoureux, c'est s'ouvrir jusqu'à se rendre vulnérable.
Oui, alors il y a de ça, mais c'est de la même manière que moi je suis traversé par quelque chose dont je suis à l'écoute au moment où j'écris. Eux-mêmes sont traversés par des choses qui sont plus puissantes que leurs propres sentiments et qui tentent de traduire l'un à l'autre. Donc le je pense que l'amour, comme au-delà du sentiment, mais comme énergie, comme puissance, c'est aussi ça, c'est aussi quelque chose qui dépasse notre condition individuelle, qui circule entre nous et auquel on décide ou non, on a le courage ou non de se mettre à un moment donné au service d'eux. Et c'est ce qu'eux tentent de faire l'un face en l'autre, l'un face de l'autre. Ouais.
C'est toi que je choisis. J'ai envie de tout sacrifier pour toi.
Mais moi, je ne veux que tu ne sacrifies rien.
Ouais, mais en fait, je te sacrifie rien. Elles vont toutes les deux se défiler. C'est l'idée d'être remplaçante qui te gêne?
Non. Je suis au-dessus de tout ça. Tu vois, j'ai envie d'aller à Ouessant. J'ai envie de partir quelques jours, de prendre l'air, de quitter ce restaurant, de passer quelques journées entières avec toi, même si c'est risqué. Mais ce serait pour toi qu'un pis-aller. Et je veux à aucun prix être un pis-aller. Plus tard, quand ça n'aura pas marché. En hiver, c'est la meilleure saison.
Un autre dialogue amoureux, celui-ci entre Melville Poupeau et Amanda Langlais dans un conte d'été d'Éric Rohmer, un conte d'été où on parle déjà d'hiver. Et Simon Joannin, l'idée omniprésente dans ce dialogue court, c'est celui de sacrifice, le sacrifice qu'on retrouve énormément aussi dans le dialogue que vous faites paraître aux éditions Alia. Est-ce qu'on peut être amoureux, non pas sans se sacrifier, mais sans être prêt à se sacrifier?
Je pense que tout dépend de comment on envisage l'amour. Si on envisage l'amour comme une possession, le simple partage d'un quotidien ou d'une intimité, peut-être pas. Si on envisage l'amour comme moi je tente de le faire, c'est-à-dire comme comment mettre des mots là-dessus, mais comme une chance de pouvoir s'élever un peu spirituellement. Je pense que la rencontre, le nœud de la rencontre amoureuse, pour moi, c'est ça, c'est d'un coup ouvrir des espaces qu'on s'attendait pas à ouvrir, et puis une fois que ces espaces sont ouverts, il est impossible de les refermer. On a évolué, on a grandi, et donc forcément on sacrifie des parts de soi. C'est difficile parfois de se rendre compte qu'on doit endeuiller des choses pour accepter l'amour de quelqu'un et pour accepter les parts de nous-mêmes qui vont se révéler à travers cet amour. C'est un peu le cas de mes personnages. C'est aussi un livre sur le deuil pour moi. Il y a cette notion-là qui est très présente là. On commence à dire que c'est un livre qui parle beaucoup de la mort, mais c'est la mort pour moi, c'est simplement une des étapes du processus de la vie. Ça n'est en rien une opposition à la vie. En revanche, le deuil, c'est aussi une étape qui pour moi se met plus en... Disons que c'est la vie qui se met en retrait quelque part. Et eux, ils font un peu cet exercice-là à un moment donné de devoir mettre en retrait les parts les plus vivantes d'eux-mêmes pour laisser s'exprimer quelque chose de plus sombre, afin de le comprendre, de le conscientiser, de le maîtriser, de le nettoyer, de pouvoir ensuite revenir l'un en face de l'autre.
Mais j'allais y venir, c'est vrai que la mort, alors vous parlez de deuil plutôt, le deuil est omniprésent dans ce texte, dans ce livre. Au fond, on a l'impression même qu'il y a une consubstantialité absolue entre l'amour et la mort, entre l'amour et le deuil. Comment vous l'expliquez ça au fond? Est-ce que c'est une pensée très très personnelle ou vous pensez que tout amour est lié au deuil et à cette perspective funeste?
Pour moi, c'est pas funeste le processus de deuil. Je pense que à titre personnel, les expériences de deuil que j'ai pu faire dans ma vie ont été parmi les plus précieuses. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant dans l'expérience de l'humanité, mais alors, oui, est-ce que c'est intéressant? Oui, oui. Est-ce qu'on vit des choses puissantes à travers ça? Très certainement. Pour moi, la mort, elle agit un peu comme une compagne de mes personnages et du personnage masculin en particulier. Elle a quelque chose de très maternel, de très doux dans la manière dont elle l'entoure et dont elle l'approche, même si ça crée chez lui une solitude immense que le personnage féminin entend. Et lui signifie qu'elle entend, et donc à partir de là, la rencontre se crée. Mais je pense que c'est plutôt le monde dans lequel on vit qui fait qu'on se retrouve isolé, seul face à la mort. Et ça, je trouve ça c'est vraiment dramatique. Le fait qu'on ritualise trop peu, qu'on met trop peu de mots sur ces choses-là, c'est assez assez terrible pour moi. C'est un peu ce que j'ai essayé de symboliquement de faire aussi, c'est-à-dire de créer un mythe contemporain pour d'abord me guider moi à travers ce que je traversais au moment de l'écriture, pour tenter un peu de cadrer ce qui était de l'ordre de l'indicible dans ma vie à ce moment-là, et puis ensuite de peut-être l'offrir aux autres, de tenter de créer quelque chose qui je l'espère pourra avoir une résonance à cet endroit-là.
On vous a proposé, avec l'équipe des Matins du Samedi, Simon Joannin, de lire un extrait de ce texte, de ce récit, de ce dialogue. Je vous cède la parole pour vous partager ces fragments avec les auditeurs de France Culture.
Tu es comme un fauve. Tu es beau, mais tu es dangereux. Tous ceux qui t'approchent le savent et le sentent, qu'ils jouent une part de leur vie et de leur innocence en ta présence. Que monter sur ton dos, c'est partir pour un lieu sans repère. Tu dois savoir que si quelque chose en toi fait que tu es ce que tu es, les autres aussi sont maîtres de la vie qu'ils veulent avoir. Ils peuvent affronter ta présence, et si te croiser les griffes, ils peuvent observer cette griffure comme le souvenir d'avoir croisé un jour la beauté d'un danger. Si quelqu'un veut se brûler à ton feu, qu'il se brûle. Il n'en mourra pas, car ton feu est une force, et sa brûlure se porte comme on porte un diamant. J'ai senti que je pouvais la dévorer si elle me laissait faire. Elle ne t'a pas laissé faire. Tu as grondé comme le font les panthères et tu es reparti dans ta nuit. Maintenant cesse de t'en vouloir n'amènera rien de bon. Ta culpabilité, c'est la clé de cette porte que tu dois tenir fermée à tout prix. Jette enfin cette clé dans la mer, oublie-la pour toujours. Tu le sais aujourd'hui, rien n'arrive par hasard. Tu avais besoin d'elle, peut-être autant qu'elle avait besoin de toi. Tu as vu à travers elle le trouble d'un désir qui t'échappe. Tu as vu le seuil d'une route que n'éclaire que la lumière jaune et sombre d'un pays qui n'est pas le tien, où les âmes se perdent en souffrance et où sont dévoyées toutes ces choses qui t'habitent et qui sont la vie, en toi comme dans le monde. Et tu n'as pas pu détruire. Si ta puissance se libère, c'est qu'il existe aussi un endroit où tout ce qu'elle touche, elle peut le réduire à néant. Il fallait que tu saches. Maintenant que tu le sais, que tu sais que rien n'est plus effrayant pour toi que tes pas sur ce chemin dénué d'amour, que tu connais cette ombre qui est la tienne, tu es prêt à mieux vivre. Tu fus habillé de la violence du monde, mais tu n'es pas ce manteau, comme je ne suis pas cette robe que je porte.
Un extrait du dialogue signé Simon Joannin qui paraît aux éditions Alia. Simon Joannin, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Parce que j'ai ouvert mon livre au hasard et que je suis tombé sur cette page.
Et pourtant, au hasard, vous tombez quand même sur une définition, je me le disais en vous écoutant, peut-être du sentiment amoureux. Je vous recite « Il n'en mourra pas car ton feu est une force et sa brûlure se porte comme on porte un diamant. » Ce feu, c'est peut-être ça le sentiment amoureux.
Oui, je reviens juste sur ce que vous venez de dire. Je pense que je tombe aussi sur, je dis par hasard, mais j'ouvre forcément sur la page où il y a marqué « Il n'y a pas de hasard ». Je trouve ça assez intéressant. Ce feu, oui, alors pour moi, c'est aussi toute l'ambivalence de l'amour, du désir, en tout cas de tout ce qui, à un moment donné, fait qu'on peut tendre à quitter sa propre intégrité pour se perdre dans les mailles de l'autre et parfois le soulever, parfois l'entraver. Là, je pense que cette partie du dialogue, il lui livre un endroit où lui a entaché son âme. Et donc, oui, il vit avec cette culpabilité. Son regard à elle lui permet de guérir ça. Le fait qu'il arrive à s'exposer au regard de l'autre, c'est déjà une réparation. Et le regard de l'autre revient par-dessus ce courage qu'il a de s'exprimer. Donc le feu ou les éléments en termes symboliques, pour moi, ils sont très proches de ce qu'ils sont dans la réalité, c'est-à-dire des puissances avec lesquelles on vit, qui nous permettent de vivre, mais qui sont tout aussi dévastatrices parce qu'elles font partie d'une nature qui nous dépasse complètement. Et là, ils interviennent en tant qu'archétype. Pour moi, le principe d'un archétype, c'est que c'est une puissance à laquelle on se réfère à un moment donné, mais qui peut complètement nous dévaster également. Et eux, par l'amour, par leur dialogue, tentent de se tenir sur le fil. Ils ont besoin de comprendre des choses. Ils sont en question incessante. Ils arrivent à un moment donné au seuil où la compréhension peut leur faire perdre leur identité, mais c'est justement en se tenant sur ce seuil qu'ils arrivent à s'individuer et à prendre pleinement conscience et possession de leur esprit.
Je voudrais vous faire réagir, Simon Joannin, aux propos liminaires inscrits avant les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Je le cite, « La nécessité de ce livre, les fragments amoureux, ce fragment d'un discours amoureux, pardon, la nécessité de ce livre tient dans la considération suivante, que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Ce discours peut être parlé par des milliers de sujets, qui le sait, mais il n'est soutenu par personne. Il est complètement abandonné des langages d'environnement, ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes, que sont les sciences, les savoirs, les arts, fin de citation. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, vous qui écrivez un dialogue amoureux et non un discours amoureux, mais en tout cas que l'amour est moqué, écarté des arts, ou en tout cas mal traduit, mal interprété, mal écrit?
Oula, pas du tout. Je crois que je comprends ce qu'il veut dire, pas des arts, en tout cas du monde et du quotidien et de pas mal de sphères d'influence, oui, très certainement, mais des arts assez peu, en tout cas pas dans mon champ référentiel personnel. La preuve, c'est que lui, il en parle très bien dans ce livre, et c'est quand même pas n'importe qui. Donc non, j'ai pas du tout ce sentiment, j'ai plutôt le sentiment que ce qui est écarté des arts, ou ce sur quoi on a tendance à ne pas tendre l'oreille, c'est la spiritualité, la dimension spirituelle de la création. Je pense qu'on est très très domestiqué par les institutions qui, pour le pire comme pour le meilleur, sont en charge de nous faire vivre et de nous diffuser. Mais que, alors ça bouge pas mal, mais j'ai le sentiment que les artistes s'intéressent et s'autorisent de manière trop timide à aborder cette part d'eux-mêmes qui, pour moi, est quand même le fondement de la création. C'est pas pour rien que.
En quelques mots, Simon Johannin, ça pourrait devenir une pièce de théâtre, ce dialogue, ça pourrait être mis en scène?
Ça regarde les metteurs en scène.
J'ai vu des didascalies qui apparaissaient parfois dans le texte.
Ouais, il y a trois didascalies qui, à un moment donné, me sentaient nécessaires, mais pour moi, dans mon rapport au théâtre, je suis lecteur de théâtre, mais je lis le texte de théâtre comme une littérature autonome. Je pense que ce texte s'apporte comme ça, en tout cas il est créé comme ça. Si quelqu'un du monde du théâtre a un jour l'idée ou l'envie de le mettre en scène, c'est qu'il fera son travail, mais moi j'ai pas grand chose à voir avec ça.
Eh bien, ce sera le choix ou pas d'un metteur en scène. Merci beaucoup Simon Johannin, on recommande très chaleureusement la lecture du dialogue que vous avez signé, qui paraît aux éditions Alia, et je remercie très chaleureusement Pauline Chanu, Jules Crétois, Jean-Christophe Francis, les deux premiers à la préparation, le dernier à la réalisation, à la technique. Cette semaine, c'était Dali Ya. Dans un instant, les informations, suivies de répliques par Alain Finkielkraut, et cette semaine, je donne le bon programme, la vertu du courage, avec Manuel Valls et François Sureau.